Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Nous sommes en présence d'un artiste et d'un directeur de galerie. La galerie est celle de Monsieur Philippe Decordes, qui est, alors vous, je vous laisse dire
Place Ansarp, à côté du musée moderne.
Voilà, c'est rue de Molsheim.
Rue de Molsheim.
Voilà. Ouais. Et l'artiste, c'est un photographe que nous avons déjà reçu ici et qui s'appelle Naohiro Ninomiya.
Merci.
C'est ça ?
Oui, bonne prononciation.
Bonne prononciation. Ok. Alors, donc c'est une exposition qui réunit aussi d'autres artistes, oui. Philippe Dié. Et Marie-Amélie Germain.
Absolument.
Alors, que j'ai connue dans le temps, qui a exposé dans d'autres galeries depuis longtemps, des paysages, des natures mortes. C'est de la figuration, oui. Très bien maîtrisée, colorée, oui. Poétique. Voilà, c'est un artiste, c'est une artiste...
Sur Strasbourg depuis quand même pas mal d'années.
Oui, et puis il y a Philippe Dié, lui, qui est de quelle région ?
Ah, je n'en sais rien. Mais enfin, il est...
Ça lui accroche un petit point d'interrogation sur la tête, donc de la poésie, de l'inspiration.
Alors, oui, en fait, c'était... Effectivement, ça prouve d'où il vient. Enfin, il est à Strasbourg depuis longtemps. Il est à Strasbourg depuis plusieurs dizaines d'années, donc voilà.
Alors voilà, ce sont des photographies et peintures qui dialoguent. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette exposition ? Vous avez exposé Naohiro Ninomiya il y a quelques mois déjà. Oui. Et son exposition a eu beaucoup de succès. Et donc vous avez eu envie de le réexposer.
Déjà, oui. Au mois de novembre. Et on peut l'appeler Nao, c'est plus simple.
D'accord.
Oh. Oui. Tout le monde l'appelle comme ça, donc voilà.
Voilà. Alors, en tout cas, moi, j'aime bien ce nom entier.
D'accord.
Est-ce que vous pouvez me dire le sens de ce nom ?
Naohiro, Nao, ça veut dire honnête en japonais. Hiro, c'est le grand, c'est-à-dire grand honnête.
Oh là là !
Très honnête.
Mais c'est vrai. Ça, c'est très important pour un artiste.
Oui,
parce
oui.
que les artistes, ça regarde un peu partout, ça copie parfois, ça essaye vraiment de dire quelque chose qu'on a vu ailleurs d'une façon différente. Mm. C'est là l'art de l'artiste de proposer les mêmes choses sous différents emballages.
Oui. Oui. Chaque fois, je me suis dit, waouh, quel hasard, quel bon nom pour être artiste, parce que surtout pour photographe, bon gré, malgré, on est trop honnête face à la réalité. Du ciné pour être photographe, j'ai l'impression, annectant le sens de mon nom.
Et Ninomiya ?
Ninomiya, c'est le doux palais. Ni signifie le chiffre 2, Mia. Ça signifie le palais, comme palais royal, palais de justice.
Double palais.
Double palais, c'est pas une, deux.
Et alors là, quelle chaîne linguistique que votre nom. Alors, comment est-ce que vous avez réuni ces trois artistes ? Est-ce que vous les connaissiez ? Est-ce que c'est ils se sont proposés eux-mêmes ? Est-ce que vous avez été les chercher ? Puisque ce sont des artistes qui ont exposé dans d'autres galeries.
Oui. C'était surtout une rencontre, donc vous voyez, sur le problème du temps qui passe. Comme vous avez pu voir les photos de Nao, il y a une certaine nostalgie, même si on n'est pas japonais. On peut s'approprier la nostalgie qui émane de son œuvre. Mm-hmm. Aussi bien chez Marie-Amélie, où il y a beaucoup de cabanes, des lieux un peu liés à l'enfance. Mm-hmm. Et pour Philippe Dié, c'est un peu pareil, en fait. Lui, c'est une nostalgie qui s'est inventée, en fait. parce qu'il est, il y a beaucoup de références au Japon, curieusement, et à la mythologie aussi bien grecque qu'égyptienne. Mmh. Et tout ça, c'est dans une espèce d'harmonie. C'est vraiment de la peinture, peinture à l'huile, très maîtrisée et avec une grande maîtrise. Oui.
Alors cette exposition qui a commencé le 23 avril se poursuivra jusqu'au 15 juin, peut-être oui. même un petit peu plus tard si
ça arrive. Ça arrive. On verra.
Ça arrive. Et quelle est la réaction du public puisque c'est différent, Philippe Dier avec un portrait d'une fillette qui est en gros plan, donc c'est une accroche encore aux éléments qui nous touchent à nous, oui. La personne qui vient voir, une enfant mise en gros plan, tout le monde, beaucoup de personnes ont des enfants, automatiquement le lien se fait spontanément, c'est une accroche assez, on ne va pas dire facile pour ne pas être désagréable, mais un peu évidente, vous voyez un enfant bien peint,
on s'était posé la question si quelque chose d'aussi intime que de peindre son enfant ou sa famille, avait encore cours maintenant. Parce que bon, beaucoup de peintres classiques ont peint leur famille sans problème. Mais Philippe Dier, il peint comme au 19e siècle. Et c'est à cette époque-là qu'on peignait beaucoup sa famille. Et donc lui, tout naturellement, je pense qu'il y est, il a peint sa famille, entre autres.
Le portrait de la fillette, c'est la sienne. Mais
c'est,
elle
sa
est,
fille,
oui. c'est sa fille. C'est mais, sa fille.
Elle représente l'innocence.
Elle représente ouais. toutes les autres petites filles Absolument. De sa noche. C'est-à-dire, on voit une fillette, c'est bien peint, c'est frais, c'est poétique.
Il n'y a pas que sa fille, sa femme, il y a son autre fille aussi. Mmh. Dans des situations assez classiques. Oui. Mmh. Mmh.
Et Marie-Amélie Germain, qui peint des paysages, des cabanes, elle a peint des natures mortes, des pots de confiture, je me souviens, sur étagères.
Oui, qui ne sont pas exposés là.
Hein, non, qui ne sont pas exposés, non. Mais c'est un artiste qui a traversé le paysage, la nature morte, avec une maîtrise admirable de la peinture aussi.
Elle est professeure à l'école d'architecture pour la peinture. Mmh. Ouais.
Très bien. Et puis alors, vous Nao, vous présentez, parlez-nous de ce que vous présentez. Ce sont donc des photos en noir et le fond n'est pas blanc, mais il est un peu écru.
Oui.
Mais c'est très... J'aime beaucoup
Merci.
Le dialogue entre le noir et l'écru, avec les dégradés un peu de gris. Il y a des personnages brouillés comme une peinture qui se voudrait abstraite, mais c'est de la photo.
Oui, parce que je suis photographe.
Oui.
Et pour ce projet, d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai montré mon travail. C'est la série qui s'appelle Ephemeral Moment. Mm-hmm. Ephemeral Moment, en anglais. Hein. Donc, le moment éphémère, et tout simplement. Et j'ai réalisé, je suis en train de encore continuer une nouvelle image. Et pour le moment, à peu près 15-16 images. Et j'ai réalisé l'année dernière, l'été, quand j'étais au Japon, je me suis baladé avec petite appareil photo et comme ça, vraiment pas réfléchir. Dès que je sentais quelque chose de particulier, j'ai déclenché l'appareil de photo. C'est comme ça que j'ai ramassé le petit moment que vous avez vu. Mmh. Et le résultat était étrange, hein? Parce qu'il y a une nostalgie incroyable. Moi aussi, j'ai l'impression comme si j'ai photographié mon enfance. Surtout deux enfants qui sont en train de se balader. Une y était dans la lumière. L'autre, ça se voit que c'était son petit frère. Mm-hmm. Il est dans l'ombre. Vraiment, j'avais l'impression, en regardant le planche contact, image réalisée, et je me suis dit, waouh, j'ai photographié moi-même. Mm-hmm. Parce que j'étais toujours à derrière de mon grand frère. Mm-hmm. Et évidemment, en tant que photographe, vraiment, je me suis dit, il faut réaliser cette image. Et alors, techniquement parlant...
Voilà, parce que vous prenez les photos et puis après, vous entrez en laboratoire et là, vous manipulez les fonds, les médiums chimiques.
Oui.
Et puis après, il y aura l'impression sur papier Japon, etc. Donc, vous déclenchez une image de façon instinctive. Voilà. Et puis après, vous la traitez en labo.
Oui. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je ne peux pas lâcher l'ancienne technologie comme photo argentique, parce que cette technologie me donne encore il y a beaucoup de possibilités de travailler à la main. Numérique, pourquoi pas? Mais c'est beau, c'est propre, mais par contre, il n'y a plus de contact physique avec mes travaux. Mmh. C'est ça ce qui me gêne. Donc du coup, je continue à réaliser mon travail avec pellicule et je continue à travailler dans un labo. Et alors, en tant qu'artiste, moi, il faut que tu prennes la responsabilité sur quel support, avec quelle matière, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Oui. Pour ce projet, j'ai encore, ça veut dire comme l'autre série aussi, j'ai décidé d'utiliser papier japonais fabriqué dans ma région qui s'appelle Gifu. Cette région, il est connu grâce à fabrication de japonais, papier japonais traditionnel depuis, à ma connaissance, 400 ans, comme ça. Et j'ai acheté, j'ai préparé une papier japonais fragile, comme vous connaissez, presque demi-transparent. Et j'ai installé une gélatine pour solidifier cette matière plus ou moins fragile. Après, j'ai mis une chimie qui est sensible à la lumière. Après, j'ai séché. Conséquence, cette papier japonais traditionnel qui s'appelle washi, il est devenu comme une papier photo sensible. Et alors, j'ai fait de tirage comme papier normal. Et le résultat était, pour moi aussi, c'était agréablement surprise. Parce que c'est une fragilité. Oui, hein, comme vous avez vu, c'est pas une photographie hyper stable, même pas nette. Mais pourtant, c'est une côté fragile. M'a fait bonne surprise. Parce que comme si on a arraché le souvenir qui est dans mon mémoire directement de mon cervelle. Comme ça. N'est-ce pas,
hein? Oui,
c'était
oui.
Étrange matière. Et donc, alors, j'ai décidé d'utiliser définitivement cette technique pour cette série FML Moment.
Alors justement, au moment où vous déclenchez l'appareil, vous passez, vous vous promenez, et puis il y a quelque chose qui vous interpelle. Qui vous interpelle, c'est pas anodin, c'est pas gratuit dans la tête. Il y a une raison pourquoi il y a ce lien. Et lorsque vous travaillez cette image, au fur et à mesure des différentes techniques, tout ce que vous faites, le papier, etc., et vous avez la révélation de la fine image qui vous a interpellé au début et qui vous a donné l'envie de travailler cette image.
Oui, donc la question était précisément parlant.
C'est-à-dire au départ, vous savez pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vous a, comme on dit vulgairement, taper dans l'œil. Voilà. Oui. Alors, vous photographiez. Et puis après, donc vous avez déjà un petit lien avec cette image.
Oui,
en fait. Et vous travaillez, puis vous retrouvez ce qui est impressionnant pour moi, c'est qu'après, vous savez pourquoi vous avez aimé.
Oui, d'accord. C'est le problème très difficile, je pense, que pour beaucoup d'artistes, l'idée est très importante. Sans l'idée, ça devient simple image esthétique, ça deviendrait l'œuvre d'art léger, disons. Cette l'idée qui est derrière est très importante, mais peut-on, quand on a pris trop de conscience de l'idée, cette l'idée devient une chaîne, on devient esclave de l'idée. Non, il faut que je sois, pour moi, au moins, moi je voudrais être artiste, libre, de détacher de... Je n'ai pas envie d'être esclave, trop esclave de l'idée. Donc, quand je pensais, quand j'ai réussi à, disons, plus ou moins théoriser dans ma tête, après, je me lâche, j'ai essayé de me libérer, de continuer à photographier spontanément. Et ce qui est important, après, en regardant planche contact, ça veut dire une montagne d'images.
La planche contact?
Planche contact, c'est quand on a développé le pellicule, quand on regarde le pellicule lui-même, comme vous savez, c'est l'inverse de noir et blanc, en fait, on ne peut pas distinguer ce qui est dedans. Pour qu'on puisse regarder toutes les photos enregistrées sur le pellicule, On fait de tirage qui s'appelle planche contact, c'est-à-dire sur forme, comme format A4, on voit toutes les images de négatifs comme si on a survolé. Ça, on l'appelle, c'est le thématique plus ou moins d'un peu professionnel. On dit de planche contact. Quand on regarde, c'est une tirage au format A4. On voit à peu près 36 toutes les images. Mm-hmm. Voilà. Donc, après d'avoir pris mes photos spontanément, et je vais étaler le planche contact sur mes tables de temps en temps, ça devient une 5, 6, 7 planche contact format 4, et je regarde avec loupe, parce que chaque image est très petite.
Est-ce que la lumière est allumée en ce moment? Non. Oui, ça peut
être déjà allumé. Donc comme petite image, la montagne de petites images là, et je regarde le détail avec loupe, un par un, soigneusement, et à ce moment-là, je commence à retirer le sens qui se cache dans cette...
Vous comprenez ce qui se passe sous vos yeux.
J'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé sur moi-même en ce moment-là. Parce que quand je regarde cette, planche contact, et je sens souvent une file conducteur. Ça veut dire que j'ai fait de belles photos. Mmh. J'avoue, de temps en temps, il y a une planche en contact qui n'a même pas fait le conducteur. Mmh. À ce moment-là, tous les pellicules sont ratées. Et ça arrive.
Ah oui, ça arrive.
Donc, ouais.
Mais lorsque vous regardez, vous voyez une cohérence, un fil directeur, une idée, un discours. Mmh. Est-ce que ce discours valide votre travail? S'il n'y avait pas eu ce discours, est-ce qu'il aurait eu une autre accroche? Là, c'est un discours linguistique. Vous dites, là, c'est une promenade. Je me vois, moi, mon frère, dans mon enfance, etc. Cette rue, je l'ai traversée 100 fois, etc. Donc, c'est un discours que vous faites. Et ce discours valide un petit peu votre travail. Et s'il n'y avait pas eu ce discours, est-ce qu'il y aurait eu une espèce d'élan d'amour direct sur vos images sans qu'il y ait le discours? Est-ce qu'il peut y avoir une poésie hors langage, langage.
Oula.
Si par exemple vous voyez tout ça et vous avez compris.
Oui. Je pense que c'est assez spontané chez ouais. Nao.
Voilà.
Oui. Et souvent la technique est importante chez lui. On a exposé 4 ou 5 séries différentes. Chaque fois avec des techniques différentes et les techniques correspondent exactement à l'idée de la cohérence entre elles des photos. Il y a des photos, des photogrammes, il y a des tirages sur un papier Japon, sur des papiers qui sont fabriqués exprès. Et chaque fois, ça correspond exactement à l'idée de la série qu'il veut faire. Mmh. Donc je pense qu'il y a un côté spontané, vous savez, comme les écrivains, ça vient automatiquement.
Spontané, efficace.
Et efficace, et je pense qu'il y a quand même une cohésion, enfin, il a une cohérence qui est interne à lui-même.
Oui.
Donc... Il n'y a pas ce problème de c'est automatique. Je pense que c'est automatique. Comme les grands musiciens, ils font très facilement de la musique. Ils travaillent avant, bien sûr. Oui. Mais il est extrêmement cohérent, sans trop de difficultés.
C'est ce qui fait que, par rapport, les différentes choses qu'il présente ont une atmosphère, un lien entre elles. Il y a une cohérence intrinsèque de l'artiste.
Ça lui correspond.
Ça lui correspond. Une exposition nouvelle est une exposition différente, mais qui prolonge un peu l'atmosphère qu'on a eue à une autre exposition du même artiste. C'est ce qui fait le style de l'artiste. Ouais. On voit même sur le net, une photo de Nao et on la rattache. On dit « Ah ben oui, j'ai déjà vu ». Il y a une personnalité.
Absolument.
Il y a une personnalité, un fil conducteur, en dehors de tout langage, etc. Parce qu'il y a aussi celui qui voit. Vous avez fait. Vous avez travaillé. Et vous livrez ça au spectateur, à la personne qui vient dans la galerie, à la personne qui trouve sur le net. Et la personne, elle a devant elle une image Et elle aussi, elle travaille cette image. Oui. Elle réagit personnellement à des atmosphères qu'elle a déjà vues, en clair-obscur, à des films, à des choses. Il y a le bagage aussi du spectateur qui entre en relation. Est-ce que vous êtes d'accord, Nao?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je dis?
Il est d'accord.
Non, c'est vrai, parce que de temps en temps, beaucoup de gens, mes amis, m'ont dit... J'ai aperçu dans un espace une image, ça m'a fait penser à toi. Mais en fait, lui, il ne savait même pas que j'étais en train d'exposer. Mm-hmm. Il a trouvé mon signature sur les pièces exposées de chez Philippe Descordes. Mm-hmm. Donc là, c'est un des preuves que quand j'ai fait ma création, honnêtement, sans trop dit tout à l'heure, voilà, d'esclave, de pensée, forcément, il y a mon signature. Oui. Ce qui est important, c'est toujours comment je peux libérer, comment je peux réagir naturellement, malgré l'importance de penser. Cet équilibre de réaction naturelle est le concept, disons, ça c'est un des choses délicates.
Pourtant, je voulais dire qu'il y a le côté quand même universel. Alors, moi, j'ai jamais été au Japon, voilà. Quand je regarde ces photos, ça me rappelle une nostalgie qui m'est propre, mais parce que chez Nao, il y a une nostalgie qui est universelle. Mmh. Et donc on peut regarder parfaitement cette exposition en ne pensant même pas forcément au Japon.
Mais c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Il y a une atmosphère humaine. Le spectateur, celui qui vient dans votre galerie, celui qui rencontre un livre où il y a une reproduction, cette personne, elle entre en relation avec son bagage de vie, de vécu, absolument. De chagrin, etc. On entre en résonance. Oui. C'est presque de l'acoustique verbale. Voilà. Alors, ici, vous présentez, il y a toujours un peu ce vocabulaire graphique, bien sûr, où il y a de l'eau, où il y a des rochers, où il y a une gamme de noir qui se décline. C'est comme si on mettait du noir dans de l'eau et ça va de plus en plus clair. Le noir devient un peu brun, le brun un peu sépia. Et c'est cette beauté-là qui est très, très attachante et qui fait votre signature. Est-ce que dans cette nouvelle exposition, donc on voit le garçon qui se promène et il y a d'autres images. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, il y a plusieurs images. Par exemple, une dame qui est devant le rocher. C'est tellement simple hein, quand je regarde cette image. Ça veut dire quelque chose, mais je ne comprends pas vraiment. C'est beaucoup de gens ont dit même chose que moi, parce que c'est tellement étrange. Une dame qui est plein au milieu de la montagne de rochers, qui est en train de songer à quelque chose. Ça veut dire quelque chose, mais on n'arrive pas à saisir de quoi s'agit-il exactement. Là, oui, on peut utiliser le mot nostalgique, en même temps, c'est plutôt la porte pour aller à l'autre univers. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça.
Et puis, il y a très peu d'éléments. Il y a très peu d'éléments.
Oui.
Donc, ça donne un caractère beaucoup plus universel. On n'est pas perdu ni dans la couleur, ni dans...
Eh bien, voilà, je voulais parler de la couleur pour vous. Vous travaillez parfois la couleur vous avez eu ou bien vous, si vous ne voulez pas en parler, ça
non, non, pas du tout, c'est rien à cacher. Je suis un petit problème de couleur.
Il est daltonien.
Ah oui, un peu.
Daltonien, mais vous voyez des choses. Ouais. C'est encore une transposition en physiologie qui est la vôtre.
Ça va, il faut distinguer le détail, hein, le nuance. Cette petite nuance-là, c'est pourquoi d'ailleurs, moi, depuis mon enfance, j'aime beaucoup l'histoire d'art. Spontanément, continue à contempler le gros bouquin de tableaux. Mais je n'ai jamais réussi à aimer le impressionniste, à vrai dire. Moi, je pense, je m'analyse moi-même. Maintenant, je pense que je ne sais pas vraiment la couleur. Mmh. C'était une petite nuance très profonde.
Ah, mais c'est vraiment, c'est vraiment moi je trouve que c'est magnifique de ne pas voir la couleur et de transmettre des dégradés aussi délicats.
Oui, si vous dites comme ça, ouais, quel sens.
Vous êtes daltonien qu'aveugle, hein, de toute façon.
Mais je pense que c'est tellement léger, mais c'est plutôt quel destin, parce que comme ça, avec cette... de difficultés, je suis devenu photographe, un des métiers qui nécessite de couleur. c'est drôle, la vie est vraiment drôle.
Ouais. Est-ce que vous, quels sont les peintres, les photographes qui vous ont influencé, qui ne vous ont pas influencé, mais qui représentent pour vous quelque chose qui ont, que vous aimez, quoi?
Oui, il y en a beaucoup. Surtout, je suis admirateur de la dessin, la forme d'Avo, que le couleur. Je pense, par exemple, Caravage, bien sûr, il y a une magnifique couleur. Mais pourtant, ce qui est plus important dans le Caravage, c'est le contraste, c'est la nuance de lumière.
La
composition et la forme des gens, et le clair ou obscur. Que couleur, vous êtes
voilà.
D'accord?
Oui.
Et comme Georges de la Tour aussi, je suis toujours admirable de Georges de la Tour, mais là, c'est le cas, c'est la lumière. Donc, je pense que mon travail, ça se passe à peu près la même chose.
Et par rapport à vos origines asiatiques, est-ce qu'il y a une tradition qui vous parle au niveau pictural, vous avez travaillé pour la dernière exposition par rapport à une ancienne image que vous avez d'un peintre asiatique. Hein.
Oui, en ce qui concerne, c'est vrai que moi j'ai fait une citation de deux artistes, les deux sont européennes, n'est-ce pas? En ce qui concerne le contexte culturel, je pense qu'on peut dire, je m'analyse moi-même comme ça, cette occasion. Par exemple, en ce qui concerne le nouveau série que je suis en train d'exposer, je trouve une sorte de comme aplatissement d'espace. Je vois beaucoup comme ces mêmes phénomènes techniques, à même façon, qui se trouvent dans le gravure traditionnel, ukiyo-e, comme Hokusai aussi. Dans le Hokusai, il y a une caractère évident, c'est que l'aplatissement d'espace. Mon travail, comme
deux dimensions, quoi, en 2D, un petit peu.
Au lieu de laisser sentir le profondeur, beaucoup de tableaux, je dis tableaux, je suis photographe, beaucoup d'images que j'ai exposées, il y a une espèce d'aplatissement. Tous les éléments aplatis, ça fonctionne bien.
On dirait des gravures ou même parfois des crayonnés.
Ah oui.
Ah oui, là c'est vraiment très très proche.
Oui, ça ferait.
Mais les gens, en voyant l'exposition, pensaient que c'était ou des gravures ou du crayonné.
Et surtout que le papier qu'il a fait prête beaucoup à l'idée du dessin. Ça avait été coupé avec un couteau. Il y a des petites dents tout autour du papier et ça fait penser à un dessin, un crayonné. De temps en temps, il y a un petit coup un peu plus pointu. C'est peut-être un trait d'encre, une plume. Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous essayez à la calligraphie? Tout ce génie de l'Asie au niveau de chromatique.
Oui, naturellement, j'adore une calligraphie japonaise. C'est la mouvement comme le d'abord calligraphie, c'est la beauté de noir et blanc. Il n'y a pas beaucoup de... Ouais, de temps en temps, il y a une calligraphie de fils qui essaye d'utiliser le couleur. Mais c'est souvent raté, mais parce que c'est un art de noir et blanc. Et donc, si vous avez trouvé une fille du même genre de beauté entre mon travail et calligraphie, c'est tout à fait normal parce que j'adore. Naturellement, j'ai été influencé.
Et alors, j'ai vu quelque chose de différent que vous avez présenté. C'est le panoramique en différentes. C'est les feuilles, les branches, et qui sont inversées, les branches et les racines. Ça aussi, c'est un dialogue.
Il y a 10 ans, plus que 10 ans, j'ai fait cette série-là. Et c'était à ce moment-là, je pense qu'il y a 12 ans. Et ma mère est décédée il y a 12 ans. Et en fait, pour artistes, beaucoup d'artistes japonais, c'est pas facile à traiter le sujet de cerisier parce qu'il est tellement beau, tellement connoté, culture japonaise. C'est pourquoi il est pas facile à commencer et photographier tellement séduisant, tellement beau. Mais pourtant, à ce moment-là, c'est une larme. Au mois d'avril, d'ailleurs, il y a 12 ans, ma mère est décédée. C'est l'histoire un peu lourde, mais il vaut mieux parler. Parce que pour aller à la crématorium, pour amener le corps de ma mère, on a traversé la forêt de cerisiers. C'est tellement belle et tellement triste. C'est au contraste de ce qui se passe dans la famille, dans mon cœur, et ce qui s'est passé dehors était cruel. Cette beauté si cruelle m'a dit allez photographier. Ça, il a la raison. C'est pas n'importe quoi, c'est pas simple beauté, gratuit. Face à la mort de quelqu'un très important, face à la beauté si cruelle, il a la raison. En tant qu'artiste, il faut faire. C'était une sorte de photothérapie, je pense. J'avais besoin de me soigner, consoler, en faisant nos photos. C'est comme ça que j'ai osé à photographier le cerisier. Résultat, ça m'a fait plaisir, c'était beau, c'était tristement beau. Et
il faut dire ce que c'est. C'est un polyptyque qui est très grand.
Oui,
il y a sept parties. La partie haute, donc le cerisier, il fait presque 4 mètres de long. Et ça représente le dessus de l'arbre. Et la partie basse, toujours cette partie, toujours polyptyque. Ça représente les feuilles qui sont tombées.
En fait, j'ai fait des photos tout de suite après la cérémonie de ma mère, de la mort de ma mère. Et une semaine après, à peu près un peu plus, et j'ai passé même endroit, même forêt de cerisier, et j'ai photographié le sol. Et évidemment, dans 10 jours, une semaine, 10 jours là, tous les pétales qui étaient en train de s'épanouir, maintenant, à ce moment-là, tous les pétales n'étaient pas terre. Ils étaient en train de mourir, ils étaient en train de pourrir. Et c'est cadavre, disons. Mais pourtant, la beauté était plus, éventuellement plus fort que quand il était comme fleur. Et le beauté de la fleur de cerisier que j'ai photographiée il y a 10 jours avant, c'était, disons, on peut dire, la beauté éphémère. Mais pourtant, la beauté qui était pas terre, c'est-à-dire le pétale qui était pas terre, au sol, il était, moi, je pense que c'est la beauté, on peut dire, éternelle. Parce qu'il était en train de pourrir. Pour la préparation de l'année prochaine. Vous voyez là? Là, c'était plus encourageant face à le part de quelqu'un, la mort de quelqu'un.
Et je trouve que c'est terriblement en rapport avec l'idée, avec l'événement de c'était, c'était pour l'enterrement de sa maman. Il traverse un sentier, et puis il y a cet arbre qui est en pleine floraison. La floraison est d'une beauté agressive, presque. Et lui, ça le blesse, cette beauté. Mais il revient plus tard et il voit que le temps a fait son travail, que les fleurs qui étaient radieuses avec leur couleur, avec leur turgescence, avec leur force, leur jeunesse, sont tombées. Pourri, mais que c'est l'humus d'une prochaine floraison, et ça, ça l'a consolé. C'est pour ça que ça l'a consolé. Ouais. C'est le processus physiologique de la vie.
C'est toujours en noir et blanc.
C'est toujours en noir et blanc.
Ouais, effectivement, le fleur qui était sorte de lumière, c'est une sorte de comme débordement de lumière. Vous avez vu, hein? Et le pétale qui était au sol. C'était justement la beauté de sombre, la beauté de noir. Hein. C'était vraiment symboliquement, c'est mon travail, noir et blanc.
Mais je trouve que c'est tout à fait raccord avec votre travail, cette histoire-là, et la consolation, et les couleurs, les camaïeux de gris, de beige, etc. C'est toujours ça. En tout cas, c'est une très belle exposition. Philippe Dier aussi, c'est à voir, très intéressant. Vous pouvez nous dire un mot sur Philippe Dier, et puis... Marie-Amélie Germain aussi, c'est très beau, des cabanes, du paysage, avec beaucoup de maîtrise et de virtuosité dans l'art de la peinture à l'huile.
Oui, alors Philippe Dier, c'est, comme j'avais dit avant, c'est une peinture classique. Il ne se sent pas tout à fait de notre époque. Et donc, il manipule un petit peu les symboles. Et il y a souvent des intérieurs avec des légèrement déformés, mais toujours pour pouvoir faire une peinture plus concise, parce que, justement, c'est très loin de la photo. Il cherche l'essence même de la peinture, c'est de pouvoir faire autre chose que la réalité. Mmh. Lui, il s'est beaucoup éloigné de la réalité pour nous la montrer, en fait.
Mmh. Alors, je me souviens de certaines toiles de Philippe Dier avec des geishas.
Des cathédrales. C'est un fan... C'est un fan absolu du Japon. Le rapprochement avec Naoe est là aussi. Hein. Et, alors qu'il n'a jamais été au Japon. Et dans les discussions qu'on a eues, tout le monde lui a conseillé de ne jamais aller au Japon parce que vaut mieux avoir des fantasmes et puis des rêves que d'être affronté peut-être à la réalité japonaise qui n'est pas aussi merveilleuse que ce qu'il imagine, lui. Enfin, voilà.
Et puis, Marie-Amélie,
oui. Elle travaille justement un peu sur la mémoire. Par les cabanes, c'est l'enfance, c'est le retour aux petites choses de la vie. C'est très structuré comme peinture.
Avec beaucoup de poésie.
Beaucoup de poésie, absolument. Des couleurs très vives. Alors, au contraire de Nao, ce sont des couleurs vives. Même plus vive que la réalité, je veux dire. Elle est dans les bleus, très bleu, bleu clair.
Un peu, je ne vais pas dire que c'est de l'illustration, mais il y a cette espèce désir de rendre la chose telle qu'elle est dans la réalité, avec des roues voilà. Bleutées.
Elle donne un côté joyeux, moins solennel que ce que fait Nao. Enfin, en tout cas, c'est le côté plus... Ça ressemble beaucoup à l'illustration, effectivement. Ouais.
Super expo. Alors, chez vous, Philippe Decorde, ça dure jusqu'au 15 juin.
15 juin, oui.
Et plus, pourquoi pas? Le public...
En tout cas, 15 juin.
Le 15 juin,
ouais.
Voilà.
Et puis ouvert, même le dimanche.
Même le dimanche.
Après-midi.
Merci beaucoup, Nao. Merci et bravo.
Merci beaucoup.
Merci. Monsieur Philippe Decorde, c'est une ancienne galerie que je connais depuis longtemps, qui fut celle de Georges Michel Kahn.
Oui, il y a 25 ans.
Il y a 25 ans. Là-dessus, à bientôt. Merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions.
Ce fut un grand plaisir. Merci.
Strasbourg Pilote. Arts et Lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Ah.